Kant, critique de la faculté de juger. Première partie, critique du jugement esthétique. Première section, analytique du jugement esthétique. Paragraphe 43, de l'art en général. 1. L'art se distingue de la nature comme le faire se distingue de l'agir. Faire facere, agir aguerrer. Il y a entre une production de l'art et une production de la nature la différence d'une œuvre opus à un effet, effectus. On ne devrait appliquer proprement le nom d'art qu'aux choses produites avec liberté, c'est-à-dire avec une volonté qui prend la raison pour principe de ses actions. En effet, quoi qu'on aime appeler œuvre d'art les productions des abeilles, les rayons de cire régulièrement construits, on ne parle ainsi que par analogie, car dès qu'on s'est aperçu que leur travail n'est point fondé sur une réflexion qui leur soit propre, on dit que c'est une production de leur nature, de l'instinct, et on en renvoie l'art à leur créateur. Lorsqu'en fouillant dans un marais, on trouve, comme il arrive quelquefois, un morceau de bois taillé, on ne dit pas que c'est une production de la nature, mais de l'art. La cause efficiente de cette production a conçu une fin à laquelle cet objet doit sa forme. D'ailleurs, on reconnaît aussi de l'art dans toutes les choses qui sont telles que leur cause, avant de les produire, en a dû avoir la représentation, comme il arrive chez les abeilles, sans pour autant les concevoir comme effet. Mais quand on nomme simplement une chose œuvre d'art, pour la distinguer d'un effet de la nature, on entend toujours par là une œuvre des hommes. 2. L'art en tant qu'habileté de l'homme se distingue aussi de la science comme pouvoir de savoir, comme la faculté pratique de la faculté théorique, comme la technique de la théorie, comme par exemple l'arpentage de la géométrie. Et ainsi, une chose qu'on peut faire dès qu'on sait ce qu'il faut faire et que l'on connaît suffisamment le moyen à employer pour arriver à l'effet désiré, n'est pas précisément de l'art. Il ne faut chercher l'art que là où la connaissance parfaite d'une chose ne nous donne pas en même temps l'habileté nécessaire pour la faire. Par exemple, Camper décrit très précisément la manière de faire un bon soulier, mais lui-même, assurément, n'eût pu en faire aucun. Note, dans mon pays, un homme du peuple à qui on propose un problème comme celui de l'œuf de colon dit que ce n'est pas de l'art, mais de la science. Note du donneur de voix, le problème de l'œuf de colon consiste à réussir à faire tenir debout un œuf, et Christophe Colomb l'aurait résolu en cassant un peu le bas de l'œuf. Fin de la note. Donc le problème de l'œuf de Colomb ne serait pas de l'art mais de la science, ce qui veut dire que quand on sait la chose, on la peut. Et l'homme du peuple parle de la même manière du prétendu art du joueur de gobelet. Il n'hésitera pas au contraire à appeler art l'adresse du danseur de cordes. Fin de la note de Kant. 3. L'art se distingue aussi de l'artisanat. Le premier peut être appelé libéral, le second peut être appelé mercantile. On ne considère l'art que comme un jeu, c'est-à-dire comme une occupation agréable par elle-même, et on ne lui attribue pas d'autres fins. Mais on regarde l'artisanat comme un travail, c'est-à-dire comme une occupation désagréable par elle-même, pénible, qui n'attire que par le résultat qu'elle promet, par exemple l'appât du gain, et qui par conséquent renferme une sorte de contrainte. Doit-on, dans la hiérarchie des professions, ranger les horlogers parmi les artistes et ranger les forgerons, au contraire, parmi les artisans? Pour répondre à cette question, il faut un autre moyen d'appréciation que celui que nous prenons ici, c'est-à-dire qu'il faut considérer la proportion des talents exigés dans l'une et dans l'autre de ces professions. En outre, dans ce qu'on appelle les sept arts libéraux, à savoir la grammaire, la rhétorique, la dialectique, l'arithmétique, la musique, l'astronomie, la géométrie. N'y en a-t-il pas quelques-uns qui doivent être rapportés à la science et d'autres qui doivent être rapprochés du métier? C'est une question dont je ne veux pas parler ici. Mais ce qu'il y a de certain, c'est que dans tous les arts, il y a quelque chose de forcé, ou comme on dit, un mécanisme, sans lequel l'esprit qui doit être libre dans l'art et qui seul anime l'œuvre ne pourrait recevoir un corps et s'évaporerait tout entier. Par exemple, dans la poésie, la correction et la richesse du langage, ainsi que la prosodie et la mesure. Il est bon de faire cette remarque dans un temps où certains pédagogues croient rendre le plus grand service aux arts libéraux en écartant de ces arts toute espèce de contrainte et en changeant le travail en un pur jeu. Paragraphe 44. Des beaux-arts. Il n'y a pas de science du beau, mais seulement une critique du beau. De même, il n'y a pas de belle science, mais seulement des beaux-arts. En effet, en premier lieu, s'il y avait une science du beau, on déciderait scientifiquement, c'est-à-dire par des arguments, si une chose doit être ou non tenue pour belle. Et alors, le jugement sur la beauté, rentrant dans la sphère de la science, ne serait plus un jugement de goût. Et, en second lieu, une science qui, comme telle, doit être belle, est un non-sens, car si on lui demandait à titre de science des principes et des preuves, on nous répondrait par des bons mots, en français dans le texte. Ce qui a sans doute donné lieu à l'expression usitée de belle science, c'est qu'on a fort bien remarqué que les beaux-arts, pour atteindre toute leur perfection, exigeaient beaucoup de science, par exemple la connaissance des langues anciennes, la lecture assidue des auteurs regardés comme classiques, l'histoire, la connaissance des antiquités, etc. Et c'est parce que ces sciences historiques doivent nécessairement servir de préparation et de fondement aux beaux-arts, et aussi parce qu'on y a compris la connaissance même des productions des beaux-arts, de l'éloquence et de la poésie, que par une sorte de transposition, on les a appelées elles-mêmes de belles sciences. Lorsque l'art, se conformant à la connaissance d'un objet possible, se borne à faire pour le réaliser tout ce qui est nécessaire, il est mécanique. Mais s'il a pour fin immédiate le sentiment du plaisir, il est esthétique. L'art esthétique comprend les arts agréables et les beaux-arts, suivant qu'il a pour but d'associer le plaisir aux représentations en tant que simple sensation ou en tant qu'espèce de connaissance. Les arts agréables sont ceux qui n'ont d'autre fin que la jouissance. Tels sont tous ces attraits ou ces agréments qui peuvent charmer une société à table, comme de raconter d'une manière amusante, d'engager la société dans une conversation pleine d'abandon et de vivacité, de la monter par la plaisanterie et le rire à un certain ton de gaieté, où l'on peut dire en quelque sorte tout ce qui vient à la bouche, et où personne ne veut avoir à répondre de ce qu'il dit parce que on ne songe qu'à nourrir l'entretien du moment et non à fournir une matière durable à la réflexion et à la discussion. Il faut aussi rapporter à cette espèce d'art celui du service de la table ou même de la musique dont on accompagne les grands repas et qui n'a d'autre but que d'entretenir les esprits par des sons agréables sur le ton de la gaieté et qui permet aux voisins de converser librement entre eux sans que personne fasse la moindre attention à la composition de cette musique. Rangeons aussi dans la même classe tous les jeux qui n'offrent pas d'autre intérêt que de faire passer le temps. Les beaux-arts, au contraire, sont des espèces de représentations qui ont leur fin en elles-mêmes et qui, sans autre but, favorisent pourtant la culture des facultés de l'esprit dans leur rapport avec la vie sociale. La propriété qu'a un plaisir de pouvoir être universellement partagé suppose que ce plaisir n'est pas un plaisir de jouissance, dérivé de la pure sensation, mais un plaisir de réflexion. Et ainsi, les arts esthétiques, en tant que beaux-arts, ont pour règle le jugement réfléchissant et non la sensation. Paragraphe 45. Les beaux-arts doivent faire l'effet de la nature. Devant une production des beaux-arts, il faut que nous ayons la conscience que c'est une production de l'art et non de la nature, mais il faut aussi que la finalité de la forme de cette production, paraissent aussi indépendantes de toute contrainte de règles arbitraires que si elle était simplement une production de la nature. C'est sur ce sentiment du jeu libre mais harmonieux de nos facultés de connaître que repose ce plaisir qui seul peut être universellement partagé sans pourtant s'appuyer sur des concepts. Nous avons vu que la nature était belle quand elle faisait l'effet de l'art. L'art, à son tour, ne peut être appelé beau que si, quoique nous ayons conscience que c'est de l'art, il nous fait l'effet de la nature. Qu'il s'agisse de la nature ou de l'art, nous pouvons dire généralement que cela est beau, qui plaît uniquement dans le jugement que nous en portons, non dans la sensation ni au moyen d'un concept. Or, l'art a toujours un dessein déterminé de produire quelque chose, mais s'il ne s'agissait là que d'une simple sensation, quelque chose de purement subjectif, qui dût être accompagné de plaisir, cette production ne plairait dans le jugement qu'au moyen d'une sensation d'essence. D'un autre côté, si le dessin concernait la production d'un objet déterminé, l'objet produit par l'art ne plairait qu'au moyen de concept. Dans les deux cas, l'art ne plairait pas uniquement dans le jugement, c'est-à-dire il ne plairait pas comme beau, mais comme mécanique. Ainsi, la finalité d'une production dans les beaux-arts, quoiqu'elle ait un dessin, ne doit pas le laisser paraître, c'est-à-dire que les beaux-arts doivent faire l'effet de la nature, bien qu'on ait conscience que ce sont des arts. Or, une production de l'art fait l'effet de la nature quand on trouve que les règles d'après lesquelles seule cette production peut être ce qu'elle doit être ont été exactement observées, mais qu'elles ne laissent point paraître l'effort, qu'elles ne trahissent pas la forme de l'école et ne rappellent pas de quelque manière que la règle était sous les yeux de l'artiste et qu'elle enchaînait les facultés de son esprit. Paragraphe 46. Les beaux-arts sont des arts du génie. Le génie est le talent, le don naturel, qui donne à l'art sa règle. Comme le talent ou le pouvoir créateur que possède l'artiste est inné, et qu'il appartient ainsi à la nature, on pourrait dire aussi que le génie est la qualité innée de l'esprit, ingenium, par laquelle la nature donne la règle à l'art. Quoi qu'il en soit de cette définition, qu'elle soit arbitraire ou qu'elle soit conforme ou non au concept qu'on a coutume d'associer au mot génie, ce que nous examinerons dans le paragraphe suivant, toujours peut-on prouver d'avance que, d'après le sens adopté ici, les beaux-arts doivent nécessairement être considérés comme des arts du génie. En effet, tout art suppose des règles au moyen desquelles une production artistique est représentée comme possible. Mais le concept des beaux-arts ne permet pas que le jugement porté sur la beauté de leur production soit dérivé de quelques règles qui aient pour principe un concept, et qui par conséquent nous apprennent comment la chose est possible. Ainsi, les beaux-arts ne peuvent pas trouver eux-mêmes la règle qu'ils doivent suivre dans leur production. Or, comme sans règle antérieure une production ne peut recevoir le nom d'art, il faut que la nature donne la règle à l'art dans le sujet, et cela par l'harmonie de ses facultés, c'est-à-dire que les beaux-arts ne sont possibles que comme production du génie. Il est facile maintenant de comprendre ce qui suit. Petit 1. Le génie est le talent de produire ce dont on ne peut donner de règles déterminées, et non pas l'habileté qu'on peut montrer en faisant ce qu'on peut apprendre suivant une règle. Par conséquent, l'originalité est sa première qualité. Petit 2. Comme il peut y avoir des extravagances originales, ces productions doivent être des modèles, elles doivent être exemplaires. Elles doivent pouvoir être proposées à l'imitation, c'est-à-dire servir de mesure ou de règle d'appréciation. Petit 3. Il ne peut lui-même décrire ou montrer scientifiquement comment il a accompli ses productions, mais il donne la règle par une inspiration de la nature, et ainsi, l'auteur d'une production, en étant redevable à son génie, ne sait pas lui-même d'où lui viennent les idées de ses créations. Il n'est pas en son pouvoir d'en former de semblables à son gré et méthodiquement. et de communiquer aux autres des préceptes qui les mettent en état d'accomplir de semblables productions. C'est pour cela sans doute que le mot génie a été tiré du mot genius, qui signifie l'esprit particulier qui a été donné à un homme à sa naissance, qui le protège, le dirige et lui inspire des idées originales. Petit 4. La nature, par le génie, ne donne pas de règles à la science, mais à l'art, et encore ne faut-il appliquer cela qu'aux beaux-arts. Paragraphe 47. Explication et confirmation de la précédente définition du génie. Tout le monde s'accorde à reconnaître que le génie est tout à fait opposé à l'esprit d'imitation. Or, comme apprendre n'est pas autre chose qu'imiter, la plus grande capacité, la plus grande facilité à apprendre ne peut, comme telle, passer pour du génie. Bien plus, pour être appelé génie, il ne suffit pas de penser et de méditer par soi-même, et de ne pas se borner à comprendre ce que d'autres ont pensé. Il ne suffit pas même de faire des découvertes dans l'art et dans la science, et d'être ce qu'on appelle une forte tête, par opposition à ces esprits qui ne savent qu'apprendre et imiter, et qu'on appelle des perroquets. C'est que ce qu'on trouve ainsi, on aurait pu l'apprendre, qu'on y arrive par des règles en suivant le chemin naturel de la spéculation et de la réflexion, et que cela ne se distingue pas spécifiquement de ce qu'on peut acquérir par l'étude au moyen de l'imitation. Ainsi, tout ce que Newton a exposé dans son immortel ouvrage des principes de la philosophie naturelle, quelque forte tête qu'il ait fallu pour trouver de telles choses, on peut l'apprendre, mais on n'apprend pas à composer de beaux vers, si détaillés que soient les préceptes de la poésie, et si excellents qu'en soient les modèles. La raison en est que Newton pouvait, non seulement pour lui-même mais pour tout le monde, rendre pour ainsi dire visible et marqué pour ses successeurs tous les pas qu'il eut à faire depuis les premiers éléments de la géométrie jusqu'à ses grandes et profondes découvertes. Tandis qu'un Homère ou un Wieland ne peut montrer comment ses idées, si riches par l'imagination et en même temps si pleines par la pensée, ont pu tomber et s'accorder dans sa tête, car il ne le sait pas lui-même et par conséquent il ne peut l'apprendre aux autres. Le plus grand inventeur dans les sciences ne diffère donc que par le degré du plus laborieux imitateur, mais il diffère spécifiquement de celui que la nature a doué pour les beaux-arts. Ce n'est pas que nous voulions abaisser ici ces grands hommes de science auquel le génie humain doit tant de reconnaissance devant ses favoris de la nature qu'on appelle les artistes. Comme les premiers sont destinés par leur talent à concourir au perfectionnement sans cesse croissant des connaissances et de tous les avantages qui en dépendent, ainsi qu'à l'instruction du genre humain, ils ont en cela une grande supériorité sur les artistes. En effet, l'art n'est pas comme la science, il s'arrête quelque part car il a des limites qu'il ne peut dépasser. Et ces limites ont été sans doute atteintes depuis longtemps et ne peuvent plus être reculées. En outre, l'habileté qui fait le génie de l'artiste, il ne peut la communiquer. Il l'a reçue immédiatement de la main de la nature et elle meurt avec lui, jusqu'à ce que la nature en produise un autre aussi heureusement doué et qui n'a besoin que d'un exemple pour exercer son talent à son tour. Si la règle de l'art ou des beaux-arts est un don naturel, de quelle espèce donc est cette règle? Elle ne peut être réduite en formule et servir de précepte, car autrement le jugement sur le bout pourrait être déterminé d'après des concepts. Mais il faut l'abstraire de l'effet, c'est-à-dire de la production sur laquelle d'autres peuvent essayer leur propre talent en s'en servant comme d'un modèle à imiter et non à copier. Comment cela est-il possible? Il est difficile de l'expliquer. Les idées de l'artiste excitent des idées semblables dans son élève si la nature l'a doué des mêmes facultés dans la même proportion. Les modèles des beaux-arts sont donc les seuls moyens qui puissent transmettre l'art à la postérité. De simples descriptions ne pourraient avoir le même résultat, surtout relativement aux arts de la parole, et dans cette espèce d'art, on ne tient pour classique que les modèles puisés dans les langues anciennes et devenus des langues savantes. Quoiqu'il y ait une grande différence entre les arts mécaniques et les beaux-arts, les premiers n'exigeant pas autre chose que de l'application et de l'étude, les autres demandant du génie, tous les beaux-arts, sans exception, renferment quelque chose de mécanique qu'on peut comprendre et suivre au moyen de règles, et suppose par conséquent, comme condition essentielle, quelque chose qui tient de l'école. Car on s'y propose un but, sinon il n'y aurait plus de production de l'art, mais pur effet du hasard. Or, pour mettre en œuvre ce qu'on se propose de faire, il faut des règles déterminées auxquelles on ne peut se soustraire. Mais comme l'originalité du talent est un des caractères essentiels, je ne dis pas le seul, un des caractères essentiels du génie, on voit de pauvres esprits qui croient faire preuve d'un brillant génie en se débarrassant de la contrainte des règles et qui s'imaginent qu'on fait meilleure figure sur un cheval fougueux que sur un cheval dompté. Le génie se borne à fournir une riche matière aux productions des beaux-arts. Pour travailler cette matière et lui donner une forme, il faut un talent formé par l'école et capable d'en faire un usage que puisse approuver la faculté de juger. Mais c'est quelque chose de tout à fait ridicule qu'un homme qui parle et décide comme un génie dans les choses qui exigent de la part de la raison les investigations les plus laborieuses. On ne sait plus s'il faut rire davantage du charlatan qui sait envelopper tout ce qu'il dit d'un tel flou qu'incapable de rien juger avec clarté, on laisse d'autant plus s'emballer l'imagination, ou du public qui croit sincèrement devoir imputer son impuissance à reconnaître et à saisir clairement le chef-d'œuvre de l'intelligence intuitive au fait qu'il est submergé de vérités neuves, tandis que le détail, que fournissent des explications appropriées et un examen méthodique des principes, ne lui semble qu'un ravaudage. Paragraphe 48. Du rapport du génie avec le goût. Pour juger des objets beaux comme tels, il faut du goût. Mais dans les beaux-arts, c'est-à-dire pour produire de belles choses, il faut du génie. Si l'on considère le génie comme un talent pour les beaux-arts, ce qui est la signification propre de ce mot, et que sous ce point de vue on veuille le décomposer dans les facultés qui doivent y concourir, il est nécessaire de déterminer auparavant d'une manière exacte la différence qui existe entre la beauté naturelle, dont l'appréciation ne demande que du goût, et la beauté artistique, dont la possibilité, qu'il faut aussi avoir en vue dans l'appréciation d'un objet d'art, exige du génie. Une beauté naturelle est une chose belle. Une beauté artistique est une belle représentation d'une chose. Pour juger une beauté naturelle comme telle, je n'ai pas besoin d'avoir préalablement un concept de ce que doit être la chose. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin d'en connaître la finalité matérielle, le but, mais il suffit que la forme seule de cette chose, indépendamment de toute connaissance de son but, me plaise par elle-même dans le jugement. Mais si l'objet est donné pour une production de l'art, et qu'on ait à le déclarer beau comme tel, l'art supposant toujours un but dans sa cause et dans la causalité de celle-ci, il faut d'abord s'appuyer sur un concept de ce que doit être la chose, et comme la concordance des divers éléments d'une chose avec sa destination intérieure ou sa fin constitue la perfection de cette chose, il suit que dans l'appréciation de la beauté artistique, la perfection de la chose doit aussi être prise en considération, ce qui n'a pas lieu dans l'appréciation d'une beauté naturelle en tant que telle. Il est vrai que, pour juger de la beauté des objets de la nature, particulièrement des êtres animés, comme par exemple l'homme ou le cheval, nous prenons généralement en considération la finalité objective de ces êtres. Mais alors, notre jugement n'est plus un pur jugement esthétique, c'est-à-dire un simple jugement de goût. Nous ne jugeons plus la nature comme faisant l'effet de l'art, mais comme étant un art, quoique surhumain. Et le jugement téléologique est ici, pour le jugement esthétique, un principe et une condition que celui-ci doit avoir en vue. En pareil cas, quand par exemple on dit « c'est une belle femme », on ne pense pas dans le fait autre chose, sinon que la nature représente dans cette forme les fins qu'elle se propose dans le corps de la femme. Car, outre la simple forme, il faut encore avoir égard à un concept, en sorte que le jugement porté sur l'objet est un jugement esthétique et logique à la fois. Les beaux-arts ont cet avantage qu'ils rendent belles des choses qui, dans la nature, seraient odieuses ou déplaisantes. Note du traducteur. C'est la pensée exprimée par Boileau dans ses vers si connus de l'art poétique. Il n'est point de serpent ni de monstre odieux qui, par l'art imité, ne puisse plaire aux yeux. D'un pinceau délicat, l'artifice agréable, du plus affreux objet, fait un objet aimable. Fin de la note du traducteur. Les fièvres, les maladies, les ravages de la guerre et tous les fléaux de ce genre peuvent être décrits ou même représentés par la peinture et devenir ainsi des beautés. Il n'y a qu'une espèce de chose odieuse qu'on ne peut représenter d'après la nature sans détruire toute satisfaction esthétique et par conséquent la beauté artistique, ce sont celles qui excitent le dégoût. En effet, comme dans cette singulière sensation qui ne repose que sur l'imagination, nous repoussons avec force un objet qui pourtant s'offre à nous comme un objet de plaisir, nous ne distinguons plus dans notre sensation la représentation artistique de l'objet de la nature de cet objet même, et alors il nous est impossible de trouver belle cette représentation. Aussi, la sculpture, où l'art semble presque se confondre avec la nature, s'est-elle interdit la représentation immédiate des objets odieux et ne permet-elle par exemple de représenter la mort, dont elle fait un beau génie, ou l'esprit belliqueux, dont elle fait un Mars, qu'au moyen d'une allégorie ou d'attributs qui font un bon effet, et par conséquent d'une manière indirecte, qui appelle la réflexion de la raison et ne s'adresse pas seulement à la faculté de juger esthétique. Voilà pour la belle représentation d'un objet, laquelle n'est proprement que la forme de la présentation d'un concept, qui par là se communique universellement. Mais pour donner cette forme aux productions des beaux-arts, il ne faut que du goût. C'est avec le goût, avec un goût exercé et corrigé par de nombreux exemples, puisés dans l'art ou dans la nature, que l'artiste apprécie son œuvre, et qu'après bien des essais, souvent laborieux, il trouve enfin une forme qui le satisfait. Cette forme n'est donc pas comme une chose d'inspiration ou comme l'effet du libre essor des facultés de l'esprit, mais le résultat de longs et pénibles efforts par lesquels l'artiste cherche toujours à la rendre plus conforme à sa pensée en conservant toujours la liberté du jeu de ses facultés. Mais le goût n'est qu'une faculté de juger, ce n'est pas un pouvoir créateur, et ce qui lui convient n'est pas pour cette seule raison une œuvre des beaux-arts. Ce peut être une production qui appartienne aux arts utiles et mécaniques, ou même à la science, et qui soit l'effet des règles déterminées qu'on peut apprendre et qu'on doit suivre exactement. Dans ce cas, la forme qu'on donne à son œuvre n'est qu'un moyen qu'on emploie pour la recommander et la répandre en la rendant capable de plaire, et bien que liée à une fin déterminée, elle laisse une certaine liberté. Ainsi, on veut qu'un service de table, qu'un traité de morale, qu'un sermon même, ait la forme des beaux-arts, mais sans que cela paraisse recherché. Et on ne dit pas pour cela que ce sont des œuvres des beaux-arts. Un poème, un morceau de musique, une galerie de tableaux, etc., voilà ce qu'on attribue aux beaux-arts. Et dans une œuvre donnée comme appartenant aux beaux-arts, on peut souvent trouver du génie sans goût ou du goût sans génie. Paragraphe 49. Des facultés de l'esprit qui constituent le génie. On dit de certaines productions qui doivent pouvoir être regardées, en partie du moins, comme des œuvres des beaux-arts, qu'elles sont sans âme. Quoique, sous le rapport du goût, on n'y trouve rien à reprendre. Un poème peut être très net et très élégant, mais sans âme. Une histoire est exacte et bien ordonnée, mais elle manque d'âme. Un discours solennel et solide et en même temps orné, mais manque d'âme. Bien des conversations ne sont pas sans intérêt, mais sans âme. On dit d'une femme qu'elle est jolie, agréable dans la conversation, gracieuse, mais sans âme. Qu'est-ce donc qu'on entend ici par âme ? Note du traducteur, le mot âme traduit Geist en allemand. Fin de la note. L'âme, dans le sens esthétique, est le principe vivifiant de l'esprit. Mais ce qui sert à ce principe pour animer l'esprit, la matière qu'il emploie dans ce but, c'est ce qui donne un heureux essor aux facultés de l'esprit, c'est-à-dire ce qui les met en jeu, de telle sorte que ce jeu s'entretienne de lui-même et fortifie même les facultés qui y sont en exercice. Or, je soutiens que ce principe n'est pas autre chose que la faculté de présentation d'idées esthétiques. Et par idées esthétiques, j'entends une représentation de l'imagination qui donne occasion de beaucoup penser, sans qu'aucune pensée déterminée, c'est-à-dire sans qu'aucun concept, lui puisse être adéquat, et que par conséquent aucune parole puisse parfaitement l'exprimer et la faire comprendre. On voit aisément que c'est le pendant d'une idée rationnelle, qui au contraire est un concept auquel on ne peut trouver d'intuition, de représentation de l'imagination adéquate. L'imagination, comme faculté de connaître productive, a une très grande puissance pour créer une autre nature avec la matière que lui fournit la nature réelle. Elle sait nous charmer là où l'expérience nous semble trop triviale. Elle la transforme en suivant toujours, il est vrai, des lois analogiques, mais aussi d'après des principes qui ont une plus haute origine, qui ont leur source dans la raison, et qui sont tout aussi naturels pour nous que ceux d'après lesquels l'entendement saisit la nature empirique. Et en cela, nous nous sentons indépendants de la loi de l'association, laquelle est inhérente à l'usage empirique de l'imagination, car si c'est en vertu de cette loi que nous tirons de la nature la matière dont nous avons besoin, nous l'appliquons à un usage supérieur et qui dépasse la nature. On peut appeler du nom d'idées ces représentations de l'imagination, car d'une part, elles tendent au moins à quelque chose qui est placé au-delà des limites de l'expérience, et elles cherchent ainsi à se rapprocher de la présentation des concepts de la raison, des idées intellectuelles, ce qui leur donne une apparence de réalité objective. D'autre part, ce qui est le principal motif, il ne peut y avoir de concept parfaitement adéquat à ces représentations, en tant qu'intuition interne. Le poète essaie de rendre sensibles des idées d'êtres invisibles, le royaume des bienheureux, le royaume de l'enfer, l'éternité, la création, etc. Ou bien encore prenant des choses dont l'expérience lui donne des exemples, comme la mort, l'envie, ou tous les vices, l'amour, la gloire, etc., et les transportant en deçà de l'expérience, son imagination, qui rivalise avec la raison dans la poursuite d'un maximum, les représente au sens avec une perfection dont la nature n'offre pas d'exemple. C'est même véritablement dans la poésie que la faculté des idées esthétiques peut révéler toute sa puissance. Mais cette faculté, considérée en elle-même, n'est proprement qu'un talent de l'imagination. Lorsqu'on place sous un concept une représentation de l'imagination qui rentre dans la présentation de ce concept, mais qui par elle-même éveille la pensée sans pouvoir être ramenée à un concept déterminé et étend ainsi esthétiquement le concept même d'une manière indéterminée. L'imagination est alors créatrice, et elle met en mouvement la faculté des idées intellectuelles, la raison, de manière à étendre la pensée, formée à l'occasion d'une représentation, ce qui, il est vrai, est le propre du concept de l'objet, bien au-delà de ce qu'on peut y saisir et y discerner clairement. Ces formes, qui ne constituent pas la présentation d'un concept donné, mais qui expriment seulement, en tant que représentation secondaire de l'imagination, les conséquences qui sont liées et l'affinité de ce concept avec d'autres, sont appelés des attributs esthétiques d'un objet dont le concept, en tant qu'idée rationnelle, ne peut trouver de présentation adéquate. Ainsi, l'aigle, qui tient la foudre entre ses serres, est un attribut du puissant roi des cieux, et le paon, un artifice de sa magnifique épouse. Il ne représente pas, comme les attributs logiques, ce que contiennent nos concepts de la sublimité et de la majesté de la création, mais quelque autre chose où l'imagination trouve l'occasion de s'exercer sur une multitude de représentations analogues qui font penser au-delà de ce qu'on peut exprimer en un concept déterminé par des mots. Ils fournissent une idée esthétique qui remplace pour l'idée rationnelle la présentation logique et qui anime véritablement l'esprit en lui ouvrant une perspective sur un champ immense de représentations analogues. Les beaux-arts ne procèdent pas seulement ainsi dans la peinture ou dans la sculpture, où les attributs sont ordinairement employés, mais la poésie et l'éloquence doivent l'âme qui vivifie leurs ouvrages aux attributs esthétiques des objets, qui accompagnent les attributs logiques, et qui, donnant de l'essor à l'imagination, nous font penser, quoique d'une manière confuse, beaucoup plus que ce que peut comprendre un concept ou rendre une expression déterminée. Je me bornerai, pour être court, à un petit nombre d'exemples. Quand le grand Frédéric s'exprime ainsi dans une de ses poésies, note du traducteur, il s'agit donc de Frédéric II, le roi de Prusse, dans une épître au maréchal Keyes qui s'intitule « Sur les vaines terreurs de la mort et les frayeurs d'une autre vie ». J'ai cité les vers français qui sont ici traduits en allemand, mais j'avoue que l'exemple donné par Kant ne gagne pas beaucoup à cette restitution du texte. Fin de la note du traducteur. Oui, finissons sans trouble et mourons sans regret, en laissant l'univers comblé de nos bienfaits. Ainsi l'astre du jour, au bout de sa carrière, répand sur l'horizon une douce lumière, et les derniers rayons qu'il darde dans les airs sont les derniers soupirs qu'il donne à l'univers. Voici le commentaire que Kant produit de ces quelques vers. Le grand Frédéric vivifie cette idée que la raison lui donnait d'une âme cosmopolite jusqu'à la fin de la vie, par un attribut qui associe l'imagination, évoquant le souvenir de tout ce qu'il y a de délicieux dans une soirée sereine succédant à un beau jour d'été, et qui éveille une multitude de sensations et de représentations secondaires pour lesquelles on ne trouve pas d'expression. Réciproquement, un concept intellectuel peut servir d'attribut à une représentation des sens et l'animer par une idée du suprasensible. Mais on n'applique à cet usage que l'élément esthétique subjectivement inhérent à la conscience du suprasensible. Ainsi, par exemple, un poète, note du traducteur, j'ignore quel est ce poète. On peut citer comme un exemple du même genre cette comparaison célèbre de Monsieur de Chateaubriand dans René. Quelquefois, une haute colonne se montrait seule debout dans un désert, comme une grande pensée s'élève, par intervalles, dans une âme que le temps et le malheur ont dévastée. Fin de la note du traducteur. Donc, ainsi par exemple, un poète dit dans la description d'une belle matinée « La lumière du soleil jaillissait comme jaillit le calme du sein de la vertu ». La conscience de la vertu, quand on se met par la pensée à la place d'un homme vertueux, répand dans l'esprit une multitude de sentiments sublimes et calmes, et nous ouvre une perspective sans bornes sur un avenir de bonheur, que ne peut rendre parfaitement aucune expression déterminée. Note de Kant. Peut-être n'a-t-on jamais exprimé de pensée plus sublime que cette inscription du temple d'Isis, la mère de la nature. Je suis tout ce qui est, fut et sera. Et nul mortel n'a levé mon voile. Seigner s'est servi de cette idée dans une vignette ingénieuse qu'il a placée en tête de sa physique, afin de remplir d'une sainte horreur l'élève qu'il se prépare à introduire dans le temple, et de disposer par là son esprit à une solennelle attention. Fin de la note de Kant. En un mot, l'idée esthétique est une représentation de l'imagination associée à un concept donné et liée à une telle variété de représentations partielles librement mises en jeu qu'on ne peut lui trouver d'expression désignant un concept déterminé, une représentation par conséquent qui ajoute à un concept beaucoup d'inexprimables pensées, dont le sentiment anime les facultés de connaître et vivifie la lettre par l'âme. Les facultés de l'esprit, dont l'union, en un certain rapport, constitue le génie, sont donc l'imagination et l'entendement. Mais tandis que l'imagination appliquée à la connaissance subit la contrainte de l'entendement et est soumise à la condition de s'approprier au concept qu'il fournit, au point de vue esthétique, au contraire, elle est libre. Aussi, outre son accord avec un concept, fournit-elle spontanément à l'entendement une matière riche et non développée, à laquelle celui-ci ne songeait point dans son concept, mais qu'il emploie moins objectivement en vue de la connaissance que subjectivement parce qu'elle anime les facultés de connaître et que par conséquent, il applique aussi, mais indirectement, à des connaissances. D'où il suit que le génie consiste proprement dans un heureux rapport de l'imagination et de l'entendement, qu'aucune science ne peut nous enseigner, aucun travail nous apprendre, par lequel nous associons des idées à un concept donné et trouvons d'un autre côté l'expression propre à communiquer à d'autres la disposition d'esprit qui en résulte et qui est comme l'accompagnement de ce concept. C'est à ce dernier talent qu'on donne proprement le nom d'âme, car pour exprimer ce qu'il y a d'inexprimable dans la disposition d'esprit où nous met une certaine représentation et le rendre propre à être universellement partagé, que l'expression consiste dans le langage, dans la peinture ou dans les arts plastiques, il faut une faculté qui saisisse, pour ainsi dire au passage, le jeu rapide de l'imagination et qui l'unisse à un concept qu'on puisse partager, sans y être contraint par des règles. Un concept qui est par cela même original et nous découvre une nouvelle règle qui n'a pas pu être tirée d'un concept ou d'une règle antérieure. Si maintenant, après cette analyse, nous revenons sur la définition que nous avons précédemment donnée du génie, nous trouvons, petit 1, que c'est un talent pour l'art et non pour la science, que doivent précéder et diriger dans ces opérations des règles clairement établies. Petit 2, que comme talent artistique, il suppose un concept déterminé de son œuvre, comme de son but, par conséquent l'entendement, mais aussi une représentation, quoique indéterminée, de la matière, c'est-à-dire de l'intuition propre à la présentation de ce concept, par conséquent, un rapport de l'imagination à l'entendement. Petit 3. Qu'il se révèle moins en atteignant son but dans la présentation d'un concept déterminé qu'en présentant ou en exprimant des idées esthétiques, qui fournissent une riche matière pour ce but même, par conséquent, en représentant l'imagination libre de la contrainte des règles, mais conforme en même temps à la présentation du concept donné. Petit 4, qu'enfin la finalité subjective qui se révèle spontanément dans la libre concordance de l'imagination avec la légalité de l'entendement, suppose une telle proportion et une telle disposition dans ses facultés qu'on ne peut y arriver par l'observation des règles ou de la science, ou d'une imitation mécanique, mais que la nature seule du sujet peut la produire. Il résulte de tout cela que le génie est l'originalité exemplaire du talent naturel que révèle un sujet dans le libre exercice de ses facultés de connaître. De cette manière, l'œuvre d'un génie, considérée dans ce qui appartient réellement au génie et non à l'étude ou à l'école, et pour un autre génie, un exemple, non pas à imiter, car le génie d'une œuvre, ce qui en fait l'âme, disparaît dans l'imitation, mais à suivre. Elle éveille en celui-ci le sentiment de sa propre originalité, elle l'excite à exercer lui-même son indépendance, et c'est ainsi que le talent, devenant un modèle, donne à l'art une nouvelle règle. Mais comme ce favori de la nature qu'on appelle le génie est un rare phénomène, son exemple produit chez des hommes de mérite une école où l'on enseigne et où l'on suit méthodiquement les règles qu'on a pu tirer des œuvres du génie. Et pour ceci, les beaux-arts ne sont plus qu'une imitation dont la nature a donné la règle par le génie. Mais cette imitation devient de la singerie quand l'élève imite tout, jusqu'aux choses que le génie n'a laissé passer, malgré leur défectuosité, que parce qu'il ne pouvait les retrancher sans affaiblir les idées. Il ne faut voir là un mérite que pour le génie, une certaine hardiesse dans l'expression et en général certains écarts, loin de la règle commune, lui vont bien, mais ne sont point choses à imiter. Ce sont toujours des fautes qu'il faut chercher à éviter, tout en les pardonnant au génie dont une inquiète circonspection compromettait l'originalité. Le maniéré est une autre espèce de singerie, qui consiste dans cette fausse originalité par laquelle on s'éloigne autant que possible des imitateurs, sans pourtant posséder le talent d'être soi-même un modèle. Il y a en général deux façons, modi en latin, de composer ses pensées. L'une s'appelle la manière, modus aestheticus, l'autre s'appelle la méthode, modus logicus en latin. Ces deux façons diffèrent l'une de l'autre en ce que la première n'a d'autre mesure que le sentiment de l'unité dans la présentation, tandis que la seconde suit des principes déterminés. La première seule, par conséquent, s'applique aux beaux-arts. Mais une œuvre d'art s'appelle maniérée lorsque la présentation de l'idée qu'elle renferme vise à l'étrangeté et n'est pas appropriée à l'idée même. Le genre précieux, contourné, affecté, qui cherche à se distinguer du commun, mais sans âme, ressemble aux façons de celui qui, comme on dit, s'écoute parler, ou qui se tient et marche comme s'il était sur la scène, ce qui annonce toujours un sot. Paragraphe 50. De l'union du goût avec le génie dans les productions des beaux-arts. Demander ce qu'il y a de plus important dans les choses des beaux-arts, si c'est le génie ou le goût, c'est demander laquelle de ces deux facultés, l'imagination ou la faculté de juger, y joue le principal rôle. Or, comme un art relativement à l'imagination mérite plutôt le nom d'ingénieux, Geistreich en allemand, et que ce n'est guère que relativement à la faculté de juger qu'il mérite d'être rangé parmi les beaux-arts, celle-ci est, au moins comme condition indispensable, condition sine qua non, la première chose à considérer dans l'appréciation des arts en tant que beaux-arts. L'abondance et l'originalité des idées sont moins nécessaires à la beauté que la concordance de l'imagination en liberté avec la légalité de l'entendement. En effet, l'imagination, avec toutes ses richesses, n'est plus qu'extravagante du moment que sa liberté n'a plus de loi, et c'est la faculté de juger qui la met en harmonie avec l'entendement. Le goût, comme la faculté de juger en général, est la discipline du génie. Il lui coupe les ailes, il le morigène et le polie. Mais en même temps, il lui donne une direction en lui montrant où et jusqu'où il peut s'étendre pour ne pas s'égarer. Et en introduisant la clarté et l'ordre dans la foule des pensées, il donne de la fixité aux idées. Il les rend dignes d'un assentiment durable et universel et propre à servir de modèle aux autres et à concourir au progrès toujours croissant de la culture du goût. Si donc, dans la lutte de ces deux facultés, il fallait sacrifier quelque chose, ce devrait être plutôt du côté du génie et la faculté de juger qui, dans les choses des beaux-arts, décide par des principes qui lui sont propres, souffrira moins volontiers qu'on déroge à l'entendement qu'à la liberté et à la richesse de l'imagination. Les beaux-arts exigent donc le concours de l'imagination, de l'entendement, de l'âme et du goût. Note de Kant. Les trois premières facultés, c'est-à-dire l'imagination, l'entendement et l'âme, doivent en définitive leur union à la quatrième, au goût. Hume, dans son œuvre intitulée « Histoire de l'Angleterre », donne à entendre aux Anglais que « quoiqu'ils ne le cèdent en rien dans leurs œuvres à aucun peuple du monde relativement aux trois premières facultés considérées séparément, ils sont par contre inférieurs à leurs voisins les Français par la faculté qui unit toutes les autres, à savoir le goût. » Fin de la note. Paragraphe 51. de la division des beaux-arts. On peut en général appeler la beauté, celle de la nature ou celle de l'art, l'expression d'idées esthétiques. Il y a là seulement cette distinction à faire que, dans les beaux-arts, l'idée esthétique doit être occasionnée par un concept de l'objet, tandis que dans la beauté de la nature, la simple réflexion que nous faisons sur une intuition donnée, sans aucun concept de ce que doit être l'objet, suffit à exciter et à communiquer l'idée dont cet objet est considéré comme l'expression. Si donc nous voulons diviser les beaux-arts, nous ne pouvons choisir, du moins comme essai, un principe plus commode que l'analogie de l'art avec l'espèce d'expression dont les hommes se servent en parlant pour se communiquer, aussi parfaitement que possible, non seulement leur concept, mais aussi leurs sensations. Note de Kant, le lecteur ne doit pas prendre cette esquisse d'une division des beaux-arts pour une théorie, ce n'est qu'un de ses nombreux essais qu'il est permis et bon de tenter. Fin de la note. Ce genre d'expression dont les hommes se servent pour communiquer consiste dans le mot, le geste et le ton. L'articulation, la gesticulation, la modulation. La réunion seule de ces trois espèces d'expression constitue une parfaite communication entre ceux qui parlent. En effet, la pensée, l'intuition et la sensation sont par la transmise aux autres simultanément et conjointement. Il n'y a, d'après cela, que trois espèces de beaux-arts. L'art parlant, l'art figuratif et l'art du jeu des sensations, en tant qu'impression sensible extérieure. On pourrait aussi diviser les beaux-arts en deux parties selon qu'ils expriment les pensées ou les sensations, et cette dernière espèce d'art serait divisée à son tour en deux autres parties suivant qu'on y considérerait la forme ou la matière, la sensation. Mais cette division paraîtrait trop abstraite et moins conforme aux idées ordinaires. Donc, division en trois espèces de beaux-arts, l'art parlant, l'art figuratif et l'art du jeu des sensations. Petit 1, les arts parlants sont l'éloquence et la poésie. L'éloquence est l'art de donner à un exercice sérieux de l'entendement le caractère d'un libre jeu de l'imagination. La poésie est l'art de donner à un libre jeu de l'imagination le caractère d'un exercice sérieux de l'entendement. Ainsi, l'orateur promet quelque chose de sérieux, et pour charmer ses auditeurs, il l'exécute comme s'il ne s'agissait que d'un jeu d'idées. Le poète n'annonce qu'un jeu amusant d'idées, et il produit sur l'entendement le même effet que s'il n'avait eu pour but que d'occuper cette faculté. L'union et l'harmonie de ces deux facultés de connaître, la sensibilité et l'entendement, qui ne peuvent se passer l'une de l'autre, mais qui en même temps ne peuvent être réunis sans effort et sans se faire réciproquement quelque tort, doivent être spontanées et paraître s'être formées d'elles-mêmes, autrement on manquerait le but des beaux-arts. C'est pourquoi tout ce qui sent la recherche et la peine y doit être évité, car les beaux-arts doivent être libres en un double sens. D'un côté, on ne peut les traiter comme des travaux mercantiles, dont on peut juger d'après une mesure déterminée et qu'on peut imposer et payer. D'un autre côté, l'esprit y trouve une occupation, mais aussi un plaisir et une excitation naturelle qui n'a pas d'autre but qu'elle-même, qui est indépendante de tout salaire. L'orateur donne donc quelque chose qu'il ne promet pas, à savoir un jeu amusant de l'imagination, mais il ôte aussi quelque chose à ce qu'il promet, à l'exercice qu'on attend de lui et qui a pour but d'occuper sérieusement l'entendement. Le poète, au contraire, promet moins et n'annonce qu'un simple jeu d'idées, mais il donne quelque chose qui est digne de nous occuper, car il offre en se jouant une nourriture à l'entendement et en vivifie les concepts par l'imagination. Par conséquent, l'orateur donne en réalité moins qu'il ne promet, et le poète en donne plus. Petit 2, les arts figuratifs, ou ceux qui cherchent l'expression de certaines idées dans l'intuition sensible, et non dans de simples représentations de l'imagination excitées par des mots. Ils représentent ou la réalité sensible ou l'apparence sensible. Il s'agit d'un côté de l'art qu'on appelle la plastique, et de l'autre de la peinture. Toutes deux forment des figures dans l'espace pour exprimer des idées. Mais les figures de la plastique sont perceptibles pour deux sens, la vue et le toucher, quoique relativement à ce dernier, elle n'ait pas pour but la beauté. Celles de la peinture ne le sont que pour la vue. Toutes deux ont pour principe dans l'imagination une idée esthétique, un archétype, un modèle, mais la figure qui constitue l'expression de cette idée, l'ectype, la copie, est donnée ou bien dans son extension corporelle, comme est l'objet lui-même, ou bien suivant l'image qui s'en forme dans l'œil, suivant son apparence en superficie. Et dans le premier cas, on peut avoir en vue et donner pour condition dans la réflexion ou un but réel, ou seulement l'apparence d'un semblable but. La plastique, ou la première espèce des beaux-arts figuratifs, comprend la sculpture et l'architecture. La première représente, dans une présentation corporelle des concepts, des choses qui pourraient exister dans la nature, mais en ayant en vue, comme appartenant aux beaux-arts, la finalité esthétique. La seconde, l'architecture, donne une semblable présentation à des concepts de choses qui ne sont possibles que par l'art, et dont la forme n'a pas son principe dans la nature, mais dans quelques fins arbitraires, et elle ne doit pas non plus perdre de vue la finalité esthétique. Dans cette dernière espèce d'art, l'objet d'art est destiné à un certain usage, auquel sont subordonnées les idées esthétiques comme à leur condition principale. Dans la première, la sculpture, le but principal est seulement l'expression d'idées esthétiques. Ainsi, les statues d'hommes, de dieux, d'animaux, etc. appartiennent à la première espèce d'art. Mais les temples, les édifices destinés aux réunions publiques, ou même les habitations, les arcs de triomphe, les colonnes, les mausolées et tous les monuments élevés en l'honneur de certains hommes appartiennent à l'architecture. On peut même y rapporter tous les meubles, les objets de menuiserie et les ustensiles de ce genre, car l'appropriation d'une œuvre à un certain usage est le propre d'une œuvre d'architecture. Au contraire, une œuvre purement plastique, qui est faite uniquement pour la vue et doit plaire par elle-même, n'est en tant que présentation corporelle qu'une imitation de la nature, mais qui a toujours en vue des idées esthétiques, et la vérité sensible n'y doit jamais être poussée si loin qu'elle cesse de paraître un art et une production de la volonté. La peinture, ou la seconde espèce d'art figuratif, qui représente une apparence sensible liée par le moyen de l'art à des idées, peut être divisée en art de bien peindre la nature et en art de bien arranger ses productions. Le premier serait la peinture proprement dite, le second l'art des jardins. En effet, celui-là ne donne que l'apparence de l'étendue corporelle, et celui-ci, tout en donnant cette étendue dans sa vérité, ne représente qu'une apparence d'utilité, il n'a en réalité d'autre but que de mettre en jeu l'imagination par les formes qu'il donne à contempler. Note de Kant. Il paraît étrange de regarder l'art des jardins comme une espèce de peinture, quoiqu'il donne à ses formes une exhibition corporelle. Mais comme il les tire réellement de la nature, par exemple les arbres, les arbrisseaux, le gazon et les fleurs, qu'il a tirés au moins primitivement des forêts et des champs, que par conséquent il n'est pas un art comme la plastique et n'est pas non plus subordonné dans ses arrangements à un concept de l'objet et à une fin déterminée comme la sculpture, mais qu'il n'a d'autre but que le libre jeu de l'imagination dans l'intuition, il s'accorde ainsi avec la peinture qui n'a pas de thème déterminé, rapprochant l'air, la terre et l'eau en les mêlant de lumière et d'ombre. En général, le lecteur ne doit pas regarder ceci comme un travail définitif, mais comme un essai par lequel je tente de rattacher les beaux-arts à un principe qui soit celui de l'expression des idées esthétiques, par analogie avec la parole. Fin de la note. Ce dernier, donc l'art des jardins, consiste uniquement à orner le sol avec les diverses choses qu'on trouve dans la nature, comme le gazon, les fleurs, les arbrisseaux et les arbres, et même les eaux, les collines et les vallons. Mais en les disposant autrement et conformément à certaines idées. Or, un bel arrangement de choses corporelles n'est fait que pour l'œil, comme la peinture, et le sens du toucher ne peut nous donner aucune représentation intuitive d'une pareille forme. Je rattacherai encore à la peinture, en l'entendant dans un sens large, ce qui sert à la décoration des appartements, comme les tapis, les garnitures de cheminées ou d'armoires, etc. Et tout bel ameublement qui n'est fait que pour la vue, ainsi que l'art de s'habiller avec goût, ainsi que toutes les choses qui servent à la parure, comme les anneaux, les boîtes, etc. En effet, un parterre de fleurs diverses, une chambre remplie de toutes sortes d'ornements, y compris même des parures de femmes, forment, dans un jour de fête, une espèce de peinture, qui, comme les peintures proprement dites, dont le but n'est pas d'enseigner quelque histoire ou quelque connaissance naturelle, est là simplement pour la vue, et n'a d'autre but que d'entretenir l'imagination dans un libre jeu d'idées et d'occuper la faculté de juger esthétique sans concept déterminé. Il peut y avoir dans tous ces ornements des travaux mécaniques très divers et qui exigent des artistes différents. Mais le jugement que porte le goût sur ce qui est beau dans cette espèce d'art est toujours déterminé de la même manière. Il ne juge que les formes sans considération de but, telles qu'elles se présentent à l'œil, isolées ou réunies, et d'après l'effet qu'elles font sur l'imagination. On voit pourquoi l'art figuratif peut être rattaché, par analogie, au geste qui fait partie du langage. C'est que l'âme de l'artiste donne par ses formes une expression corporelle à sa pensée et au mode de sa pensée, et fait parler de la chose même comme un langage mimique. C'est là un jeu très fréquent de notre fantaisie qui suppose dans les choses inanimées une âme qui nous parle par leur forme. Paragraphe 3. L'art de produire un beau jeu de sensations venant du dehors, qui doit aussi pouvoir être universellement partagé, ne peut porter sur autre chose que sur la proportion des divers degrés de la disposition ou de la tension du sens auquel appartient la sensation, c'est-à-dire sur le ton de ce sens. Et ainsi, largement entendu, comme le jeu de l'art peut mettre en mouvement ou les sensations de l'ouïe ou celles de la vue, cet art peut se diviser en musique et en coloris. Il est remarquable que ces deux sens, outre la capacité qu'ils ont de recevoir autant d'impressions qu'il est nécessaire pour recevoir au moyen de ces impressions des concepts d'objets extérieurs, sont encore capables d'une sensation particulière, qui est mêlée, et au sujet de laquelle on ne peut décider si elle a son principe dans le sens ou dans la réflexion. Et que cette affectibilité peut manquer quelquefois, sans que d'ailleurs il manque rien au sens, en tant qu'il sert à la connaissance des objets, et quoi qu'il puisse être même singulièrement subtil. Ainsi, on ne peut dire avec certitude si une couleur ou un ton, un son, doit être rangé parmi les sensations agréables ou est déjà en soi un beau jeu de sensations, et contient à ce titre une satisfaction liée à sa forme, dans le jugement esthétique. Quand on songe à la rapidité des vibrations de la lumière ou de l'air, qui surpasse de beaucoup en apparence toute notre faculté de juger immédiatement dans la perception les proportions de la division du temps par ces vibrations. On croirait que nous n'en sentons que l'effet sur les parties élastiques de notre corps, mais que nous ne remarquons pas et ne pouvons juger la division du temps par ces vibrations, et qu'ainsi l'agréable seul, et non la beauté de la composition, est liée aux couleurs et aux tons. Mais si d'un autre côté, en premier lieu, on considère les rapports mathématiques qu'on peut démontrer comme constituant la proportion des vibrations dans la musique et le jugement que nous en portons, et qu'on juge la distinction des couleurs comme il est juste par analogie avec la musique, si en second lieu on se rappelle les exemples, quoique rares, d'hommes qui ne pouvaient distinguer les couleurs avec la meilleure vue du monde ou les tons avec l'ouïe la plus fine, tandis que d'autres qui ont cette faculté trouve de remarquables différences dans la perception d'une couleur ou d'un son qui varie, je ne dis pas seulement quant au degré de la sensation, suivant les différents degrés de l'échelle des couleurs ou des tons, on pourrait bien alors se voir forcé de ne pas regarder seulement les sensations des couleurs ou des sons comme de simples impressions sensibles, mais comme l'effet d'un jugement que nous portons sur une certaine forme dans le jeu de plusieurs sensations. suivant qu'on adoptera l'une ou l'autre opinion dans la détermination du principe de la musique, on sera conduit à la définir, ou comme nous l'avons déjà fait, comme un beau jeu de sensations auditives, ou simplement un jeu de sensations agréable. La première définition rattache tout à fait la musique aux beaux-arts, et la seconde n'en fait qu'un art agréable, au moins en partie. Paragraphe 52. De l'union des beaux-arts dans une seule et même production. L'éloquence peut être unie avec la peinture de ses sujets et de ses objets dans une pièce de théâtre. La poésie peut être unie avec la musique dans le chant. Le chant, à son tour, peut être uni avec la peinture théâtrale dans un opéra. Le jeu des sensations qui constitue la musique peut être uni avec celui des formes dans la danse, etc. La présentation même du sublime, en tant qu'elle se rattache aux beaux-arts, peut s'unir avec la beauté dans une tragédie, dans un poème didactique, dans un oratorio. Grâce à ces sortes d'unions, les beaux-arts font paraître plus d'art, mais en deviennent-ils plus beaux par ce mélange d'espèces, de satisfactions si diverses? C'est ce dont on peut douter dans quelques-uns de ces cas. Dans tous les beaux-arts, l'essentiel est la forme. Une forme concordante avec la contemplation et le jugement, et produisant ainsi un plaisir qui est en même temps une culture et qui dispose l'âme aux idées, et par conséquent la rend capable d'un plaisir plus grand encore. Ce n'est pas la matière de la sensation, l'attrait, l'émotion, où il ne s'agit que de la jouissance, laquelle ne laisse rien dans l'idée, rend l'âme lourde, l'objet insipide, et l'esprit qui a conscience d'un état discordant aux yeux de la raison, mécontent de lui-même et chagrin. Quand les beaux-arts ne sont pas liés, de près ou de loin, à des idées morales, qui seules contiennent une satisfaction qui se suffit à elles-mêmes, c'est là le sort qui les attend à la fin. Ils ne servent alors que comme une distraction, dont on a toujours d'autant plus besoin qu'on y recourt davantage pour dissiper le mécontentement de l'esprit, en sorte qu'on se rend toujours plus inutile et plus mécontent de soi-même. En général, les beautés de la nature sont les plus importantes pour ce but, quand on s'est habitué de bonne heure à les contempler, à les juger et à les admirer. Paragraphe 53. Comparaison de la valeur esthétique des beaux-arts. Le premier rang entre tous les arts appartient à la poésie, qui doit presque entièrement son origine au génie et qui ne se laisse guère diriger par des règles ou par des exemples. Elle étend l'esprit, en mettant l'imagination en liberté, en présentant à l'occasion d'un concept donné, parmi l'infinie variété des formes qui peuvent s'accorder avec ce concept, celle qui en lie la présentation à une abondance de pensées, à laquelle aucune expression n'est parfaitement adéquate, et en s'élevant ainsi esthétiquement à des idées. Elle le fortifie en lui faisant sentir cette faculté libre, spontanée, indépendante des conditions de la nature, par laquelle il considère et juge la nature comme un phénomène, d'après des vues que celle-ci ne présente par elle-même dans l'expérience, ni au sens ni à l'entendement, et par laquelle, par conséquent, il en fait comme un schème du suprasensible. Elle joue avec l'apparence qu'elle produit à son gré, mais sans tromper par là. Car elle donne l'exercice auquel elle se livre pour un simple jeu, mais pour un jeu qui doit être dirigé par l'entendement et lui être conforme. L'éloquence. L'éloquence, si on entend par là l'art de persuader, c'est-à-dire de tromper par une belle apparence, ars oratoria en latin, et non pas simplement l'art de bien dire, l'éloquence proprement dite et le style. Cette éloquence est une dialectique qui ne s'éloigne de la poésie qu'autant que cela lui est nécessaire pour séduire les esprits en faveur de l'orateur et leur ôter la liberté. On ne peut par conséquent en conseiller l'emploi dans l'enceinte du tribunal ni dans la chaire. Car quand il s'agit des lois civiles, des droits de certains individus, quand il s'agit d'instruire sérieusement les esprits dans l'exacte connaissance de leurs devoirs et de les disposer à les observer consciencieusement, il est indigne, d'une si importante entreprise, de laisser paraître la moindre trace de ce luxe de l'esprit et de l'imagination qui peut convenir ailleurs, et à plus forte raison de cet art de persuader et de séduire les esprits qui peut sans doute être employé pour une fin légitime et louable, mais qui a le tort d'altérer la pureté intérieure des maximes et des dispositions de l'esprit, quoique l'action soit objectivement légitime. Il ne suffit pas de faire le bien, il le faut faire par ce seul motif que c'est le bien. D'ailleurs, le concept de ces sortes de choses humaines, quand on l'expose clairement, qu'on le fait vivement ressentir par des exemples, et qu'on se montre fidèle aux règles de l'harmonie du langage ou de la convenance de l'expression, ce seul concept a déjà sur les esprits, relativement aux idées de la raison, qui en même temps constitue l'éloquence, une influence assez grande par elle-même pour qu'il ne soit pas nécessaire d'y ajouter les machines de la persuasion, et celles-ci pouvant être tout aussi bien employées à embellir et à cacher le vice et l'erreur, ne peuvent empêcher qu'on ne soupçonne secrètement quelques ruses de l'art. Dans la poésie, tout est loyal et sincère, elle se donne pour un simple jeu de l'imagination, qui ne veut plaire que par sa forme, en l'accordant avec les lois de l'entendement. Elle ne cherche pas à le surprendre et à le séduire par une présentation sensible. Note de Kant. Je dois avouer qu'un beau poème m'a toujours donné un contentement pur, tandis que la lecture des meilleurs discours d'un orateur du peuple romain ou du parlement ou de la chaire a toujours été mêlée pour moi d'un sentiment désagréable ou de blâme pour la supercherie d'un art qui, en des choses importantes, cherche à entraîner les hommes, comme des machines, dans une opinion à laquelle une calme réflexion ôtera tout son poids. L'art de bien dire, l'éloquence, la rhétorique, appartient aux beaux-arts. Mais l'art oratoire, ars oratoria, en tant qu'art de tourner la faiblesse humaine à ses propres fins, qu'on les suppose ou qu'elles soient en réalité aussi bonnes qu'on voudra, ne mérite aucune estime. Aussi cet art ne s'est-il au plus haut degré élevé, à Athènes et à Rome, que dans un temps où l'État marchait à sa perte, et où le véritable patriotisme était éteint. Celui qui joint à une vue claire des choses une grande richesse et une grande pureté de langage, et qui, avec une imagination féconde et heureuse dans la présentation de ses idées, s'intéresse de cœur au véritable bien, celui-là est le vir bonus dicendi peritus, l'orateur sans art, mais plein d'autorité, tel que le demande Cicéron, bien que lui-même ne soit pas toujours resté fidèle à cet idéal. Fin de la note. Après la poésie, je placerai, si l'on considère l'attrait et l'émotion de l'esprit, un art qui s'en rapproche surtout dans les arts parlants et qu'on y peut joindre très naturellement, à savoir la musique. En effet, si cet art ne parle que par des sensations sans concept, et par conséquent ne laisse pas, comme la poésie, quelque chose à la réflexion, il émeut cependant. Il émeut l'esprit d'une manière plus variée et plus intime, quoique plus passagère. Mais il est plutôt une jouissance qu'une culture. Le jeu des pensées qu'il excite n'est que l'effet d'une association en quelque sorte mécanique. Et aux yeux de la raison, il a moins de valeur qu'aucun des autres beaux-arts. Aussi a-t-il besoin, comme toute jouissance, de beaucoup de variété, et ne peut-il répéter souvent la même chose sans causer de l'ennui. Voici comment on peut expliquer l'attrait de cet art, qui se communique si universellement. Toute expression prend dans la parole un ton approprié à sa signification. Ce ton désigne plus ou moins une affection de celui qui parle et l'excite aussi dans l'auditeur. Et cette affection, à son tour, éveille en celui-ci l'idée exprimée dans la parole par ce ton. La modulation est donc, pour les sensations, comme une langue universelle, intelligible à tout homme. Or, la musique l'emploie dans toute sa force. Et ainsi, d'après la loi de l'association, elle communique universellement les idées esthétiques qui y sont liées naturellement. Mais comme ces idées esthétiques ne sont pas des concepts et des pensées déterminées, c'est la forme de la composition de ces sensations, l'harmonie et la mélodie, au lieu de la forme du langage, qui seule, par un accord proportionné de toutes les parties entre elles, accord qui repose sur le rapport d'un nombre de vibrations de l'air dans des temps égaux, en tant que les tons formés par ces vibrations sont liés simultanément ou successivement, et qui par conséquent peut être mathématiquement ramené à des règles certaines. Note du traducteur, ici, Kant fait allusion à des connaissances dont on dispose déjà depuis Pythagore, à savoir que, entre une note et sa propre octave, ou sa propre quinte, ou sa propre tierce, c'est-à-dire un accord consonant, on trouve toujours des rapports numériques très simples, ce qui explique aussi que la musique a longtemps fait partie des mathématiques. Fin de la note. Donc, comme ces idées esthétiques ne sont pas des concepts et des pensées déterminées, c'est la forme de la composition de ces sensations, l'harmonie et la mélodie, au lieu de la forme du langage, qui seule par un accord proportionné de toutes les parties entre elles, sert à exprimer l'idée esthétique d'un tout bien lié, comprenant une quantité inexprimable de pensées, conformément à un certain thème qui constitue l'affection dominante du morceau. Bien que cette forme mathématique ne soit pas représentée par des concepts déterminés, elle seule est l'objet de la satisfaction que la simple réflexion de l'esprit sur cette quantité de sensations, simultanées ou successives, joint au jeu de ces sensations comme une condition universellement valable de sa beauté. Elle seule peut permettre au goût de s'attribuer d'avance quelques droits sur le jugement de chacun. Mais ce qu'il y a de mathématique dans la musique n'a certainement pas la moindre part à l'attrait et à l'émotion qu'elle produit. Ce n'est là que la condition indispensable, condition sine qua non, de cette proportion, dans la liaison comme dans la succession des impressions, qui permet de les rassembler en les empêchant de se détruire réciproquement, et par laquelle elles s'accordent pour produire, au moyen d'affections correspondantes, un mouvement, une excitation continuelle de l'esprit, et par là une jouissance personnelle durable. Si, au contraire, on estime la valeur des beaux-arts d'après la culture qu'ils donnent à l'esprit, et qu'on prenne pour mesure l'extension des facultés qui, dans la faculté de juger, doivent concourir à la connaissance, la musique occupe alors le dernier rang entre les beaux-arts, parce qu'elle n'est qu'un jeu de sensations, tandis qu'au contraire, ne considérée que l'agrément, elle est peut-être la première. Les arts figuratifs passent donc avant elle sous ce point de vue. Tout en donnant à l'imagination un jeu libre et cependant approprié à l'entendement, ils contiennent aussi une occupation, car ils produisent une œuvre qui est pour les concepts de l'entendement comme un véhicule durable et se recommandant par lui-même, et qui sert ainsi à réaliser l'union de ces concepts avec la sensibilité, et à donner par là un caractère d'urbanité aux facultés supérieures de connaître. Ces deux espèces d'art suivent des marches bien différentes. La musique va de certaines sensations à des idées indéterminées. Les arts figuratifs vont d'idées déterminées à des sensations. Les arts figuratifs produisent des impressions durables, la musique ne laisse que des impressions passagères. L'imagination peut rappeler les impressions des arts figuratifs et s'en faire une agréable distraction, mais les impressions de la musique ont bientôt disparu tout entière. Ou, si l'imagination vient les renouveler involontairement, elles nous sont plutôt pénibles qu'agréables. En outre, il y a dans la musique comme un manque d'urbanité, car par la nature même de ses instruments, elle étend son action plus loin qu'on ne le désire, dans le voisinage, elle se ferait en quelque sorte un passage et vient troubler la liberté de ceux qui ne sont point de la réunion musicale, inconvénient que n'ont pas les arts qui parlent à la vue, puisque l'on n'a qu'à détourner les yeux pour en éviter l'impression. On pourrait presque comparer la musique à ces odeurs qui se répandent au loin. Celui qui tire de sa poche un mouchoir parfumé ne consulte pas la volonté de ceux qui sont autour de lui, et il leur impose une jouissance qu'ils ne peuvent éviter s'ils veulent respirer. Aussi cela est-il passé de mode. Note de Kant, ceux qui ont recommandé le chant des cantiques dans les exercices religieux domestiques ont oublié qu'une aussi brillante dévotion, qui rappelle trop souvent celle des pharisiens, incommode le public, car elle oblige les voisins ou à chanter ou à interrompre leur méditation. Fin de la note de Kant. Note du traducteur. Rosenkrantz a supprimé ce passage et la note qui y est jointe, sans doute parce qu'il les a trouvés un peu puériles. On sait d'ailleurs que l'auteur de la critique de la faculté de juger n'avait qu'un goût médiocre pour la musique. On trouvera sur ce sujet de piquants détails dans une charmante biographie des dernières années de la vie de Kant par Monsieur Cousin. Fin de la note du traducteur. Parmi les arts figuratifs, je donnerai la préférence à la peinture. Et parce qu'elle est, en tant qu'art du dessin, le fondement de tous les autres arts figuratifs, et parce qu'elle peut pénétrer beaucoup plus avant dans la région des idées et étendre davantage le champ de l'intuition conformément à ses idées. Paragraphe 54. Remarque. Il y a, comme nous l'avons montré souvent, une différence essentielle entre ce qui plaît simplement dans le jugement et ce qui plaît dans la sensation. Dans ce dernier cas, on ne peut, comme dans le premier, exiger de chacun la même satisfaction. La jouissance, quand même la cause en serait dans des idées, semble toujours consister dans le sentiment du développement facile de toute la vie de l'homme, par conséquent aussi bien du bien-être corporel, c'est-à-dire de la santé, en sorte qu'Épicure, qui regardait toute jouissance comme étant au fond une sensation corporelle, n'avait peut-être pas tort en cela, mais seulement il ne s'entendait pas en rapportant à la jouissance la satisfaction intellectuelle et même la satisfaction pratique. Quand on a devant les yeux la distinction que nous venons de rappeler entre le plaisir dans le jugement et le plaisir de la sensation, on peut s'expliquer comment une jouissance peut déplaire à celui-même qui l'éprouve. Comme par exemple la joie que ressent un homme qui est dans le besoin, mais qui a de bons sentiments, à l'idée de l'héritage d'un père qu'il aime, mais qui est avare. Ou comment un profond chagrin peut plaire à celui qui le ressent. Par exemple, la tristesse que laisse à une veuve la mort d'un excellent mari. Ou comment une jouissance peut plaire aussi, comme celle que donnent les sciences que nous cultivons. Ou comment un chagrin, par exemple la haine, l'envie, la vengeance, peut aussi nous déplaire. La satisfaction ou le déplaisir repose ici sur la raison et se confond avec l'approbation et l'improbation. Mais la jouissance et le chagrin ne peuvent se fonder que sur le sentiment ou la prévision d'un bien-être ou d'un mal-être possible, quel qu'en soit le principe. Tout jeu libre et varié de sensations, n'ayant point de but, produit une jouissance, car il excite et développe le sentiment de la santé, que le jugement de la raison attache ou non une satisfaction à l'objet de cette jouissance et à cette jouissance même. Et cette jouissance peut s'élever jusqu'à l'affection, quoique nous prenions aucun intérêt à l'objet, ou que nous n'y attachions pas du moins un intérêt proportionné au degré de l'affection. On peut diviser ces sortes de jeux en jeux de hasard, musique et jeux d'esprit. Le jeu de hasard suppose un intérêt, soit de vanité, soit d'utilité, mais cet intérêt n'est pas à beaucoup près aussi grand que celui qui s'attache à la manière dont nous cherchons à nous le procurer. Le second, le jeu de musique, Tonspiel, note du traducteur, on pourrait aussi traduire par jeu de ton, fin de la note. Le jeu de musique ne suppose que le changement des sensations dont chacune a un rapport à l'affection, mais sans avoir le degré d'une affection, et il excite des idées esthétiques. Le troisième, le jeu d'esprit, Gedankenspiel en allemand, résulte simplement d'un changement des représentations dans la faculté de juger, qui ne produit, il est vrai, aucune pensée contenant quelque intérêt, mais qui cependant anime l'esprit. Toutes nos réunions montrent combien on trouve de jouissance dans les jeux, sans pourtant s'y proposer aucun but intéressé, car sans jeu, presque aucun ne pourrait se soutenir. Mais les affections de l'espérance, de la crainte, de la joie, de la colère, de la raillerie sont en jeu, se succèdent alternativement, montrant tant de vivacité que toute l'action de la vie du corps semble excitée par un mouvement intérieur. C'est ce que prouve cette vivacité d'esprit qu'excite le jeu, quoi qu'on y gagne ou qu'on n'y apprenne rien. Mais comme le beau n'entre pour rien dans les jeux de hasard, nous devons les laisser ici de côté. La musique et les choses qui excitent le rire sont deux espèces de jeux dits d'esthétique, ou même de représentation intellectuelle, qui en définitive ne nous fournissent aucune pensée et qui ne peuvent nous causer une vive jouissance que par leur changement. Par où nous voyons assez clairement que l'animation dans ces deux cas est purement corporelle, quoiqu'elle soit provoquée par des idées de l'esprit, et que le sentiment de la santé excité par un mouvement des entrailles correspondant au jeu de l'esprit constitue la jouissance. Regardez comme si délicate et si spirituelle d'une société où règne la gaieté. Le plaisir que nous ressentons, soit à l'occasion de la musique, soit à l'occasion d'un spectacle comique, ne provient pas d'un jugement sur l'harmonie des tons musicaux ou d'un jugement sur les saillies, lequel, par la beauté qu'il nous y découvre, ne sert ici que comme un véhicule nécessaire. Le plaisir, en ces deux occasions, vient d'un développement favorable de la vie du corps. Il s'agit d'une affection qui remue les entrailles et le diaphragme, et donc d'un seul mot, le sentiment de la santé, qu'on ne sent pas sans une pareille occasion. Ces plaisirs nous montrent aussi qu'on peut aller au corps par l'âme et faire de celle-ci le médecin du corps. Dans la musique, ce jeu va de la sensation du corps aux idées esthétiques, des objets de nos affections, et il revient ensuite de celle-ci au corps, mais avec une force double. Dans la plaisanterie, qui, comme la musique, mérite plutôt d'être rangée parmi les arts agréables que parmi les beaux-arts, le jeu débute par des pensées qui toutes occupent aussi le corps, en tant qu'elles sont exprimées d'une manière sensible, et comme l'entendement s'arrête tout à coup dans cette présentation où il ne trouve pas ce qu'il attendait, nous sentons l'effet de cette interruption qui se manifeste dans le corps par l'oscillation des organes, en renouvelle ainsi l'équilibre, et a, sur la santé, une influence favorable. Dans tout ce qui est capable d'exciter de vifs éclats de rire, il doit y avoir quelque chose d'absurde, en quoi par conséquent l'entendement ne peut par lui-même trouver de satisfaction. Le rire est une affection qu'on éprouve quand une grande attente se trouve tout à coup anéantie. Ce changement, qui n'a certainement rien de réjouissant pour l'entendement, nous réjouit cependant beaucoup indirectement pendant un moment. La cause en doit donc être dans l'influence de la représentation sur le corps et dans la réaction du corps sur l'esprit, non que la représentation soit objectivement un objet de contentement, comme quand on reçoit la nouvelle d'un grand bénéfice, car comment une attente trompée pourrait-elle causer une jouissance ? Mais c'est qu'en tant que simple jeu de représentation, elle produit un équilibre des forces vitales. Je suppose qu'on raconte cette anecdote. Un Indien à Surat, dînant chez un Anglais et voyant ouvrir une bouteille dont toute la bière s'échappe en mousse, témoignait de son étonnement par ses exclamations. L'Anglais lui demanda ce qu'il y avait là de si étonnant. « Je ne m'étonne pas, répondit l'Indien, de ce que cela s'échappe de la bouteille, mais je me demande comment vous avez pu l'y faire entrer. » Cette anecdote nous fait rire et nous donne un véritable plaisir. Et ce plaisir ne vient pas de ce que nous nous trouvons plus habiles que cet ignorant ou de toute autre cause qui plairait à l'entendement, mais de ce que notre attente était excitée et se trouve tout à coup anéantie. Supposons encore que l'héritier d'un riche parent, voulant faire célébrer en l'honneur du défunt de riches et solennelles funérailles, se plaignent de n'y pouvoir réussir en disant que plus ils donnent d'argent à des gens pour paraître affligés, plus ils se montrent joyeux, nous éclatons de rire, et la cause en est encore que notre attente se trouve tout à coup anéantie. Et remarquons bien qu'il ne faut pas que la chose attendue soit changée en son contraire, car ce serait quelque chose encore, et cela pourrait être souvent un objet de chagrin. il faut qu'elle soit réduite à rien. En effet, si quelqu'un excite en nous une grande attente par le récit d'une histoire, et qu'arrivé au dénouement, nous en reconnaissions la fausseté, nous éprouvons un déplaisir, comme par exemple, quand on raconte que des hommes, frappés par une grande douleur, ont vu leurs cheveux blanchir en une nuit. Si au contraire, un autre plaisant pour réparer l'effet produit par cette histoire raconte tout au long le chagrin d'un marchand qui, revenant des Indes en Europe avec tout son bien en marchandises, est obligé dans une tempête de tout jeter par-dessus le bord et se désole à tel point que sa perruque en devient blanche dans la même nuit, nous rions et nous avons du plaisir, parce que notre propre méprise en une chose qui nous est d'ailleurs indifférente, ou plutôt l'idée que nous suivons, est pour nous comme une balle avec laquelle nous jouons quelque temps, tandis que nous pensions seulement la saisir et la retenir. Le plaisir ne vient pas de ce que nous voyons un menteur ou un sot se confondre, car cette dernière histoire, racontée avec un sérieux affecté, exciterait par elle-même les éclats de rire d'une société, et l'autre ne serait pas ordinairement jugé digne d'attention. Il faut remarquer que dans ces sortes de cas, la plaisanterie doit toujours contenir quelque chose qui puisse faire un instant illusion. C'est pourquoi, quand l'illusion est dissipée, l'esprit revient en arrière pour l'éprouver de nouveau. Et ainsi, par l'effet d'une tension et d'un relâchement qui se succèdent rapidement, il est porté et balancé, pour ainsi dire, d'un point à un autre, et comme la cause qui en quelque sorte tendait la corde vient à se retirer tout d'un coup, et non insensiblement, il en résulte un mouvement de l'esprit et un mouvement intérieur du corps correspondant au premier qui se prolonge involontairement et, tout en nous fatiguant, nous égaye, produisent en nous des effets favorables à la santé. En effet, si on admet qu'à toutes nos pensées soient liés quelques mouvements dans les organes du corps, on comprendra aisément comment à ce changement subit de l'esprit qui passe alternativement d'un point à un autre, pour considérer son objet, peuvent correspondre dans les parties élastiques de nos entrailles une tension et un relâchement alternatif qui se communiquent au diaphragme, comme ce qu'éprouvent les gens chatouilleux. Dans cette circonstance, les poumons renvoient l'air à des reprises très rapprochées et produisent ainsi un mouvement favorable à la santé, et c'est là, et non dans l'état antérieur de l'esprit, qu'il faut placer la véritable cause du plaisir que nous attachons à une pensée qui, au fond, ne représente rien. Voltaire disait que le ciel nous avait donné deux choses en compensation de toutes les misères de la vie, l'espérance et le sommeil. Il aurait pu ajouter le rire si nous pouvions disposer aussi facilement des moyens propres à l'exciter chez des hommes sensés et si le véritable talent comique n'était pas aussi rare qu'est commun celui d'imaginer des choses qui cassent la tête, comme font les rêveurs mystiques, ou bien des choses où l'on se casse le cou, comme font les génies, ou enfin des choses qui fendent le cœur, comme font les romanciers sentimentaux et les moralistes du même genre. On peut donc, à ce qu'il me semble, accorder à Épicure que toute jouissance, même quand elle est occasionnée par des concepts qui éveillent des idées esthétiques, est une sensation animale, c'est-à-dire corporelle. Et l'on ne fera point par là le moindre tort au sentiment spirituel du respect pour les idées morales, car ce sentiment n'est pas une jouissance, mais une estime de soi, ou de l'humanité en nous, qui nous élève au-dessus du besoin de la jouissance. J'ajoute que, quoique moins noble, la satisfaction du goût n'en souffrira pas davantage. On trouve un mélange de ces deux dernières qualités, le sentiment moral et le goût, dans la naïveté, qui n'est autre chose que la sincérité naturelle à l'humanité, triomphant de l'art de feindre, devenu une seconde nature. On rit de la simplicité qui atteste une certaine inexpérience en cet art, et on se réjouit de voir la nature déjouer l'artifice. On attendait ce qu'on voit tous les jours, un extérieur emprunté, composé à dessein pour tromper par la beauté de l'apparence, et voici, dans son innocence et dans sa pureté première, la nature qu'on n'attendait pas, et que celui qui la laisse paraître ne pense pas découvrir. À la vue de cette belle mais fausse apparence, qui a ordinairement tant d'influence sur notre manière de juger, et qui se trouve ici tout à coup anéantie, et de cette fourbe des hommes mise à nu, il se produit dans notre esprit un double mouvement en sens opposé, et ce mouvement donne au corps une secousse salutaire. Mais en voyant que la sincérité de l'âme, ou du moins son inclination à la sincérité, qui est infiniment supérieure à toute dissimulation, n'est pas tout à fait détruite dans la nature humaine, nous sentons quelque chose de sérieux dans ce jeu de l'imagination. Le sentiment de l'estime vient s'y mêler. Mais aussi, comme ce n'est là qu'un phénomène passager, et que l'art de la dissimulation cesse bientôt de se montrer à découvert, il s'y mêle en même temps une certaine compassion ou un certain mouvement de tendresse, qui peut très bien s'allier, et dans le fait est souvent uni, comme une sorte de jeu, avec notre franc rire, et qui allège ordinairement, pour celui qui y donne lieu, l'embarras de ne pas être encore façonné aux conventions humaines. Art et naïveté sont donc des choses contradictoires, mais il est possible aux beaux-arts, quoique cela leur arrive rarement, de représenter la naïveté dans une personne imaginaire. Il ne faut pas confondre avec la naïveté une simplicité franche qui ne gâte point la nature par l'artifice, uniquement parce qu'elle ignore ce que c'est que l'art de vivre en société. On peut rapporter aussi le comique aux choses qui, en nous égayant, tiennent au plaisir du rire et qui appartiennent à l'originalité de l'esprit, mais non pas au talent des beaux-arts. Le comique, dans le bon sens, signifie en effet le talent de se mettre volontairement dans une certaine disposition d'esprit où on juge toute chose tout autrement qu'à l'ordinaire, même en sens inverse, et cependant d'après certains principes de la raison. Celui qui est involontairement soumis à cette disposition d'esprit s'appelle fantasque, mais celui-ci, qui la prend volontairement et avec intention, pour exciter le rire par un contraste frappant, s'appelle comique. Mais le comique appartient plutôt aux arts agréables qu'aux beaux-arts, parce que l'objet de ces derniers doit toujours conserver quelque dignité et exige par conséquent un certain sérieux dans la présentation, comme le goût dans le jugement. Fin de la première section, l'analytique du jugement esthétique.